Alléluia. Merci au Seigneur pour sa présence, pour ce temps. On a pu vraiment le louer, l'adorer, proclamer son merveilleux nom. Et quand on élève le nom du Seigneur, quand on loue son nom, il commence à agir, il commence à toucher, il commence à toucher les cœurs. Et il a commencé vraiment déjà de le faire pendant ce temps de louange. Et ça a vraiment ouvert quelque chose. Je vais vraiment pouvoir aller à la suite vraiment de ce qui a été dit. Et j'avais cette illustration pour commencer ce message. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de regarder la télévision en fin de journée, par exemple. Et vous avez le coucher du soleil qui est clair en fait sur l'écran depuis votre baie vitrée ou depuis votre fenêtre. Ou bien vous avez votre lampe de la salle à manger qui se reflète sur l'écran. L'écran tel est, il est allumé. On voit bien, il y a l'éclairage, il est parfait, il y a tout qui se passe bien au niveau de la télé, c'est correct, mais sur l'écran se reflète comme cette lumière, la lumière ambiante de la pièce. Des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous pouvez même vous voir vous-même dans la télé, parce qu'il y a tellement de lumière ambiante que vous vous voyez assis comme ça devant, parce que en reflet. Et quand on le réalise, bon, on va baisser les stores, mais on va éteindre la lumière, on ne va pas regarder tout le film ou l'émission avec cette lumière qui se reflète sur l'écran. Et j'avais la pensée que c'était une illustration de ce qui pouvait des fois se passer. Il y a des choses dans notre vie, dans notre environnement immédiat qui est clair, qui attire notre attention. Et même si on regarde, c'est ça que c'est une image, toute proportion, regardez, même si on regarde à Dieu, il peut y avoir des fois comme ce reflet, il y a comme des choses qui viennent. Même si ce que Dieu dirait par sa parole ou par un message, c'est très clair, il y a toujours peut-être telle situation, comme ce lustre ou comme ce reflet de l'extérieur qui peut se mettre entre deux. On a beau regarder, écouter Dieu, le chercher mieux, chercher à bien le voir, il y a cette situation qui est là. Et ça peut prendre notre attention. C'est comme un filtre, finalement, où on essaye de voir Dieu, et il y a comme toujours un filtre, quelque chose entre deux qui se met. Et c'est une image, mais je crois que c'est une illustration aussi d'une réalité spirituelle. Et ce matin, j'aimerais ensuite prier, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a des situations, il y en a, elles ont même été nommées déjà presque pendant ce temps de louange, mais ça peut être des bons projets, mais ça peut aussi être des problématiques, un défi professionnel, un défi d'éducation des enfants, un défi familial, un défi d'amitié ou relationnel, un défi de santé, financier ou autre, ou un projet enthousiasmant qui fait que quand tu t'approches de Dieu, c'est là, tu le vois. Et même quand Dieu te parle ou quand il y a un message ou bien même une parole prophétique, on va même comprendre, ou un texte biblique, quand on ouvre sa Bible, on va même le comprendre par rapport à ça, parce qu'il y a toujours ce reflet ou ce filtre, où il y a toujours cette image qui est là. C'est ce qu'on perçoit de Dieu peut vite passer par ce filtre. Et j'aimerais prier vraiment pour qu'on puisse remettre ces aspects à Dieu. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous nous déchargeons de ses préoccupations, il va s'en occuper lui-même. 2 Pierre 5, 7 nous dit, dans cette traduction intéressante où il est dit « Déverse sur lui toutes tes inquiétudes et ton stress et laisse-les là, car il prend toujours soin de toi avec tendresse. » Et Seigneur, ce matin, on veut te déposer tout ce qui pourrait mettre comme un filtre qui fait que ce qu'on perçoit de toi, que ce soit ce matin par ce message ou chez soi quand on lit ta parole ou quand on a une pensée, ça soit toujours en fonction de ce reflet, de ce projet ou de cette problématique ou de cette chose-là. Et Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, qu'on puisse avoir ta compréhension, ta perspective. Seigneur, qu'on veut comme ce matin régler les choses pour qu'il n'y ait plus cette distraction, ce filtre, qu'on puisse clairement voir ce que tu veux nous dire dans nos vies de tous les jours, mais aussi en particulier ce matin. On te remet ces projets, on te remet ces défis ou ces préoccupations, ces situations parfois pesantes, parce que tu t'en charges et tu t'en occupes, comme le dit ta parole. Et je prends maintenant au nom de Jésus autorité sur ces pôles de distraction qui sont là, qui attirent comme toutes les pensées qu'on peut avoir de la part de Dieu pour nous, les versets, les messages, toujours orientés par rapport à ça, au nom de Jésus, pour que tu puisses clairement parler, Seigneur, à nos cœurs, que tu puisses parler à chacun, Seigneur, et te révéler comme tu es vraiment, et pas juste à travers ce reflet de ce qui marque nos vies. Et Seigneur, je te prie aussi de toucher comme les éblouissements, comme quand on a regardé une lumière tellement forte, même si elle n'est plus là, ça nous éblouit encore dans les yeux. Et même si des situations ou des défis ne sont plus là, on voit encore ça. Et je te prie que ça parte au nom de Jésus. et que chacun puisse te percevoir comme tu es vraiment, Seigneur. Viens ôter ça et qu'on puisse, selon Éphésiens 3, 18, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître ton amour qui surpasse toute connaissance afin que nous soyons remplis jusqu'à la toute plénitude de toi, de ta présence, de ta révélation, de qui tu es. Seigneur, viens nous révéler ta vie ce matin. Viens nous révéler un petit bout de plus de qui tu es, de ce que tu veux nous dire, où tu veux nous emmener, Seigneur. Viens nous parler, qu'on puisse te voir sans filtre, sans reflet de ce qui nous préoccupe. Ou bien qu'on puisse te voir sans nous voir nous-mêmes, et puis que ça nous touche toujours nous, mais on veut avoir les yeux fixés sur toi, sans qu'il y ait toujours cette image de nous. Et Seigneur, on te prie que ça parte au nom de Jésus. Viens régler l'éclairage et que ça soit toi qui brille. Ça soit toi qui brille devant nos yeux. Amen. Et je sens vraiment qu'on est dans un mouvement, que Dieu nous amène quelque part déjà depuis tout ce début d'année, qu'il nous parle, qu'il nous fait progresser. Et ce qu'il désire avec chacun de nous, c'est nous amener plus loin, de continuer à se révéler à nous. En tout cas, c'est toujours le souhait de mon cœur, de continuer de nous transformer de gloire en gloire pour qu'on puisse être ces vases d'honneur, qu'on puisse être ces vases d'honneur qui contiennent sa présence, qui contiennent sa gloire, afin que les gens qui goûtent à notre vie puissent goûter à cette vie de Dieu et vraiment que son règne puisse venir, que sa gloire puisse descendre. Et ce mouvement de Dieu, alors que Dieu nous parle, je sentais vraiment de poursuivre, d'aller un peu dans la suite de ce qu'on a pu vivre ces derniers mois, et en particulier aussi de continuer un message que j'avais fait en début de l'année, de sortir vraiment du désert. Facilement, on peut être dans le désert et qu'il puisse nous libérer de toute mentalité d'Égypte, comme le peuple qui était sorti du désert, mais il avait encore toutes ses pensées du monde, de l'Égypte, qui étaient encore dans sa tête. Et d'ailleurs, ce message, vous pouvez l'écouter encore sur le site. Je ne veux pas trop prendre du temps à le résumer. Le titre, c'était « Ne pas en rester là ». Il y en a eu d'autres depuis. « Ne pas en rester là ». Et il était question du peuple qui était sorti d'Égypte. Et quand il est sorti d'Égypte, en passant la mer Rouge, il était à 10-15 jours d'entrer dans le pays promis. C'est-à-dire de leur appel, leur destinée. Et finalement, ils ont tournicoté pendant 40 ans dans le désert. C'est-à-dire toute leur vie, parce que c'est là qu'ils ont fini. Ils avaient reçu des prophéties. Ils avaient vu des miracles. Ils avaient entendu les messages d'un des plus grands prophètes de tous les temps, Moïse. Et pourtant, ils ont terminé leur vie en tournant en rond dans le désert, sans entrer dans les promesses, sans entrer dans l'appel qui résonnait en eux, passant de phase à regretter le confort du passé, des tentations d'Égypte, à des phases où ils rêvaient du pays promis, puis d'enfin rentrer là-dedans, dans ce qui brûlait dans leur cœur. Mais c'était comme un schéma cyclique et ils ont tourné là-dedans, en rond, et ainsi de suite. Et on a pu voir dans ce message que l'esprit d'Égypte, cette mentalité d'Égypte, c'est un esprit qui vient tuer les appels, c'est un esprit qui vient endormir les vocations et c'est un esprit qui vient piétiner vraiment les destinées. Et Dieu nous appelle vraiment à sortir de cette vie, de désert dans laquelle l'ennemi aimerait bien nous coincer. Si tu n'es plus vraiment en Égypte, mais pas dans le pays promis, tu es juste dans un sas, tu es juste entre deux. Et c'est une vie qui est tellement désagréable. Tu ne profites pas du monde, mais tu n'es pas encore dans la plénitude et la bénédiction de Dieu. Et pas encore dans le potentiel de notre appel, pas encore dans ce pays promis. Et je sens vraiment que l'esprit, l'intention de Dieu, c'est de nous amener véritablement quelque part. Et nous amener aujourd'hui un peu à la suite, encore plus loin de ça. Est-ce que Dieu m'a mis à cœur pour ce matin, ce n'est pas juste un message pour un dimanche, mais ça fait partie de ce voyage, de cette marche de gloire en gloire dans laquelle Dieu aimerait nous faire marcher, me faire marcher, te faire marcher, et nous aussi, nous faire marcher en tant qu'Église, pour entrer toujours plus dans ce qu'il a prévu pour nous, ce pays de la promesse. Et il y a encore du terrain à prendre, et c'est le titre de mon message. Il y a encore du terrain, il y a encore de quoi conquérir, il y a encore du terrain pour aller plus loin. Et on avait vu que ce qui ouvre le Jourdain, qui nous amène à vivre ces promesses que Dieu a pour nous, c'était déjà ce pas d'obéissance, les sacrificateurs qui passaient avec l'arche de l'Alliance et qui posaient leurs pieds dans le Jourdain, qui ont passé le Jourdain, c'est ouvert, cette rivière. Et dans la suite de ce passage, j'entendais vraiment comme le Seigneur me dire, et je vous transmets, qui me disait, mais ce qui ouvre le Jourdain, c'est de mettre en premier ma présence. Mais avec, il y a aussi le service, le lâcher prise. Mettre les pieds dans l'eau, c'est une démarche de foi. Mais de mettre les sacrificateurs devant. Non seulement ils portent ma présence, mais ce sont des hommes consacrés à ma maison qui ont un cœur de service. C'est par ma présence, mais aussi par un cœur de sacrificateur, c'est-à-dire un cœur de service, que le Jourdain s'est ouvert. Amen. Alors le but ce matin, ce n'est pas de parler du service. Dommage hein, pour ceux qui attendaient que ça. Ce n'est pas de parler du service, mais c'est d'une mentalité, une disposition de cœur. Et pour moi, c'était comme une deuxième partie de révélation. Le Jourdain, il s'est ouvert par l'obéissance, alors qu'ils ont obéi de mettre le pied, alors que l'eau était encore là, et que ça s'est ouvert. Aussi par la présence de Dieu qui était mise en premier avec l'arche. Mais là, ce qui permet vraiment au peuple d'entrer vraiment dans ce nouveau pays, son appel, sa destinée, c'est cette intimité, cette présence, c'est de mettre les pieds dans l'eau. Mais c'est aussi au travers de sacrificateurs. C'était eux qui étaient en premier. C'était des personnes consacrées et puis qui servaient. Ce sont des personnes entières qui ont laissé leur vie être sanctifiée, être transformée, qui ont donné leur vie pour le service et qui ont mis justement ses pieds dans l'eau et le Jourdain s'est ouvert. Alors ça aurait pu être l'armée entière, ça aurait pu être le peuple, mais ce sont les sacrificateurs qui sont allés avec l'arche. Et à l'époque, les sacrificateurs, ils étaient choisis, ils étaient de la tribu de Lévi, ils vivaient dans la sainteté, ils étaient mis à part pour Dieu, ils étaient choisis non par rapport à leur force, mais par rapport à leur consécration. Ce n'étaient pas des guerriers, mais c'était des porteurs de la présence, des hommes dont le cœur était consacré à Dieu, à le servir. Alors, ce n'est pas le thème non plus principal de mon message, mais pour moi, c'est un point essentiel. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas juste être amoureux de la présence de Dieu qui va ouvrir le Jourdain et nous permettre enfin d'entrer dans le pays promis, dans les promesses, dans l'appel que Dieu a mis pour nous. Mais il y a toute la vie qui suit aussi derrière. Il y a un amour, il y a une passion pour la présence, pour l'arche qui est devant, c'est-à-dire une vie vouée à l'adorer, à adorer Dieu. Mais il y a aussi cette vie sanctifiée par cette présence, une vie qui se donne, qui sert, qui porte cela, qui s'implique. Et c'est ça, ces sacrificateurs. C'est tout l'inverse que de consommer, puis de se laisser servir par Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu cherche premièrement des gens qui aiment et cherchent sa présence. Mais dans le monde chrétien, beaucoup, on peut facilement vivre cette culture chrétienne parce qu'on est converti peut-être depuis plusieurs années. Et puis ça devient une habitude d'être chrétien. On se lève le matin, on tire notre café, on est chrétien. Mais Dieu cherche des intimes réguliers, des amis, des gens qui ont faim et soif de cette présence. Alors on en a souvent parlé, et c'est normal, et puis on va continuer de le faire, parce que c'est notre destinée, et puis c'est vraiment le cœur de Dieu. Mais ça poursuit, puis ça va plus loin que ça. Les amoureux de la présence, ils n'étaient pas seulement en rond autour de l'arche dans le désert. Mais on le voit dans Josué 3, verset 5. À un moment donné, il est dit, Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Il y avait plus, ils n'ont pas juste admiré la présence de Dieu, mais ils se sont consacrés, ils se sont levés. Leur vie a suivi. Et ils ont porté, servi. Ils se sont mouillés en mettant les pieds dans l'eau. Quelle foi! Et je crois que c'est tout un thème qu'on pourra encore développer, mais aimer Dieu, aimer sa présence, c'est le début. Mais ce qui va nous faire sortir de ce désert, peut-être de tourner en rond, de jamais vraiment entrer dans notre appel, c'est de vivre ce que Dieu nous a promis, de se lever, c'est de laisser notre vie être alignée, d'être sanctifiée pour être vraiment ses sacrificateurs. C'est eux qui ont ouvert la rivière. Et cet ancien musicien chrétien engagé, Keith Green, qui avait dit « Dieu ne veut pas des fans, mais il veut des disciples. » Et je crois qu'aujourd'hui, on dirait « Dieu ne veut pas juste des followers ou des likers, je ne sais pas, mais des disciples. » C'est-à-dire des porteurs de sa présence, des hommes et des femmes consacrés, comme ces sacrificateurs qui ont mis le pied dans l'eau. Et ce n'était pas juste, je ne crois pas que c'est juste pour un petit groupe de personnes, comme à l'époque qui ouvre la voie, mais maintenant c'est vraiment pour tout le monde. Cet appel de sacrificateur, elle est pour tout le peuple, pour nous tous, pour toi, pour moi. C'est l'apôtre Pierre qui nous l'a écrit dans sa première lettre, où il dit « Mais vous, vous êtes ceux qui sont choisis, la communauté de sacrificateurs. On a tous ce même appel, comme ceux qui ont porté cette présence et qui ont ouvert pour rentrer dans le pays promis. » Et traverser, vraiment, à un moment donné, s'emparer de ce pays, c'est le début de la conquête. Quand on traverse le Jourdain, qu'on rentre, qu'on fait cette démarche, c'est le début de la conquête. D'ailleurs, je trouve le verset de Josué 1:11 que Dieu donne avant même de la traversée, c'est parlant, où il est mis « Préparez des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Et ça donne un aperçu de ce qu'il y a après le Jourdain. Comme on sait, le pays de la promesse, il est mis notre destinée, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est mis qu'il faut quand même le conquérir. Dieu dit, le pays, je te le donne, il est là, mais il le donne, mais il y a quand même cette notion de conquête qui est là. C'est un cadeau, c'est une promesse, c'est un appel, mais il faut le saisir. Et c'est comme disait récemment Jérémy Potin, il disait, une prophétie sans mise en mouvement reste une belle histoire sans fin. Beaucoup de gens collectionnent des paroles prophétiques, mais ne font jamais rien. La prophétie est une invitation à l'action. Et c'est ce que j'ai vraiment trouvé fort, c'est que le pays promis nous est donné, mais il y a une action qui fait qu'à un moment donné, on doit le conquérir, on doit s'en saisir. Une fois que le peuple a passé le Jourdain, ils ont dû prendre ce pays. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'est au verset 17, « Alors qu'ils passent ce Jourdain, Dieu leur a dit de laisser l'arche au milieu du fleuve, alors que tout le peuple passait. » Et non seulement la présence de Dieu ouvrait le chemin, mais elle gardait aussi la percée ouverte. Et je crois que la présence de Dieu, elle permet que la percée que Dieu veut nous faire vivre dans nos vies reste ouverte pour qu'on puisse franchir pleinement et rentrer vraiment dans ce qu'il a prévu pour nous. Et j'étais frappé dans, ça on n'entend pas forcément toujours, dans Josué 4, 17, « L'Éternel dit à Josué, ordonne au sacrificateur qui porte l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre, « Sortez du Jourdain. » Alors avant, et peut-être mon message de début d'année, c'était un peu « Sortir du désert. » Mais là, c'est « Sortez du Jourdain. » Aussi fou soit ce miracle, aussi forte la présence de Dieu, à un moment donné, il faut passer à la conquête. C'est le moment d'aller sur le terrain, de fouler le pied de ce nouveau pays. Comme Dieu dit à Josué, juste avant, dans Josué 1, 3, un verset que beaucoup connaissent, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Donc ils doivent quand même le fouler, ce pays. Il est donné, mais ils doivent y aller, ils doivent marcher, ils doivent le prendre. Et on pourrait rester quelque part autour de l'arche, de la présence, au milieu du Jourdain. C'est tellement magnifique ce que Dieu fait. C'est tellement fou et tellement fort. Pourquoi bouger? On est tellement bien. Et le pays promis, il est là, mais il y a des géants. Il y a des inconnus, on ne sait pas ce qu'il y aura vraiment. Non, pour s'emparer de ce pays promis, pour rentrer vraiment dans ce à quoi on est appelé, il y a un terrain à fouler. Et ça me fait penser un peu à la montagne de la Transfiguration, où Pierre, Jacques et Jean, il y avait une manifestation de la gloire de Dieu, ils voulaient juste y rester. Pierre voulait planter des tentes. Et parfois, on est tenté de rester dans ce qu'on vit de fort. Et souvent dans l'histoire de l'Église, ces derniers siècles, on voit des mouvements de Dieu où Dieu agit puissamment, ou des réveils, ou une révélation en particulier, puis les gens, ils restent à ça. Il y a environ 500 ans, il y a eu une réforme, puis il y en a des, ils sont encore réformés, ils sont encore dans cette réforme, ou d'autres ont réalisé la révélation, la puissance du baptême, puis c'est resté des baptistes, anabaptistes, puis ils restent encore comme ça. Ou il y a eu les méthodistes, il y en a eu plein, puis ça peut nous toucher, nous, hein. Ou bien une église a vécu quelque chose de fort il y a 40 ans, puis quand vous y alliez, vous avez l'impression de faire un voyage dans le temps d'il y a 40 ans. Là, c'est tellement extraordinaire ce qui se passe dans ce Jourdain, au milieu du miracle. La présence de Dieu est là, c'est fou. Mais le but, ce n'est pas juste de rester à ça, mais c'est vraiment de s'emparer du pays. Mais ce que j'ai trouvé fou, alors que dans mon cœur, mon message, moi j'attends que, je vais le faire après encore, c'est de parler de la conquête du pays, d'enfin entrer dans les promesses que Dieu a pour nous. J'ai eu cette pensée du Seigneur qui m'a dit, regarde la première chose qui s'est passée après le Jourdain. Regarde la première chose qui s'est passée. Et je crois que c'est une clé dans cette suite, dans ce que Dieu veut vraiment nous faire vivre pleinement dans l'appel et les promesses qu'il a pour nous. Oui, maintenant que le peuple a quitté l'Égypte, quitté ce désert, passé ce Jourdain pour entrer dans le pays, ils ont, et c'est pas de ça que je vais parler, ils ont posé aussi des pierres, ils ont fait comme un mémorial pour se souvenir que Dieu a passé, ils ont mis des pierres dans le Jourdain, en dehors, etc. Ils y sont enfin et le pays s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe là? On peut s'arrêter là, on peut camper, enfin on y est dans ce pays promis. Ou alors on peut foncer, on a tellement reçu de paroles, on a tellement entendu que maintenant qu'on y est, let's go. Je cours. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'enfin, ils sont dans ce pays promis, tant attendu. Ils sont jamais rentrés pendant 40 ans. Maintenant qu'ils y sont, enfin, Josué 5, il a dit à ce moment, « Le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. » Josué se fait donc des couteaux en pierre et il circoncit les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Le verset 8, « Quand ils sont tous circoncis, ils restèrent au camp jusqu'à leur guérison. » Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous la honte que vous avez rapportée d'Égypte. » C'est pourquoi on a appelé cet endroit Gilgal. Et dans le désert, ils avaient vécu des miracles. Il y avait des chaussures qui ne se sont jamais usées pendant 40 ans. Il y avait de la manne, les cailles, l'eau du rocher. Ils ont tenu bon, mais il n'y avait plus de circoncision pendant ces 40 ans. Ça se comprend peut-être physiquement. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil. Avant de s'emparer vraiment des promesses, d'entrer pleinement dans ce que Dieu a promis, l'appel véritable de Dieu, ça demande une circoncision du cœur. Et c'est super fort. Avant de conquérir le pays, de s'emparer des promesses, cette étape importantissime, indispensable. Et c'est mon deuxième point ce matin. C'est le lieu juste après Jéricho, ça est appelé Gilgal. C'est le lieu de la circoncision du cœur, de libération, de guérison. Et le mot Gilgal, qui vient de la racine hébraïque Galal, ça veut dire rouler, enlever, ôter ce qui est posé dessus. Et ce verset 9, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous la honte. » J'ai Galal, c'est ça ce mot. J'ai ôté la honte. Et la circoncision, elle était physique, mais avant tout, elle est symbolique. Et c'est parlant pour nous aujourd'hui. C'est comme la chair qui est enlevée de nos vies. Verset 9, « J'ai ôté la honte d'Égypte. » Autrement dit, ce qui restait de l'Égypte en eux, cette mentalité, cette honte, cette ancienne identité qui est enlevée. Et c'est fort parce que ça va vraiment dans la suite mes deux précédents messages. Je ferai le lien après, mais mes amis, je crois que Dieu est en train de nous parler pour qu'on entre vraiment enfin et toujours plus dans notre destinée, dans les promesses que Dieu a pour nous en tant que personne, en tant qu'Église. Il nous sort d'Égypte, du désert, de cette mentalité, notre ancienne vie. Et ce passage du Jourdain, c'est l'entrée dans la promesse. Mais ça commence par Gilgal, qui est le premier lieu après le Jourdain, et qui est une transformation de cœur, une transformation intérieure. Comme mon dernier message avec Zachée, pour que les figues, les fruits du sycomore figuier soient bons à manger, il fallait cette incision dans le fruit. Et le verset 8, il est mis « Lorsqu'ils eurent fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. » On ne conquiert pas le pays promis sans l'incision et la guérison du cœur. On n'entre jamais vraiment dans notre appel sans l'incision et la guérison du cœur. Et Deutéronome 36 nous dit que l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur afin que tu aimes l'Éternel de tout ton être, afin que tu vives. Et c'est une sorte d'opération cardiaque spirituelle afin qu'on puisse vivre pleinement la vie, la vraie vie que Dieu désire qu'on vive. C'est ça la vie. J'avais fait un message sur la vie éternelle déjà maintenant, une abondance de vie. Et s'il veut venir circoncire nos cœurs, c'est pour qu'on vive cette vie pleine et entière. Et il vient guérir les blessures, ôter la souffrance dans le cœur. Il vient enlever ce bout de chair, le rejet, le non-pardon, ça peut être l'amertume ou l'orgueil. Et ce verset 8 nous montre qu'ils sont restés sur place jusqu'à leur guérison. Et jamais ils n'auraient pu s'emparer du pays sans passer par Gilgal, c'est-à-dire sans que Dieu vienne inciser leur cœur. Mais jamais non plus ils auraient pu s'emparer du pays promis sans qu'il y ait cette guérison dans le cœur. Et je crois que c'est un message fort de Dieu pour nous. Jamais on pourra vraiment enfin vivre toutes les prophéties qu'on a reçues ou entrer dans l'appel qui brûle dans nos cœurs sans passer par Gilgal. C'est-à-dire que Dieu vienne inciser, ôter la chair, l'identité du passé, nous libérer de l'emprise, de la mentalité d'Égypte, du monde, de cette partie de chair qui nous tient, ou des marques ou des blessures du passé, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça qu'avant la conquête, il y a ce temps de guérison. Il passe le Jourdain et il y a ce temps de guérison. Ils restèrent sur place jusqu'à ce que leur guérison soit entière. Et je me souviens maintenant, il y a bien des années, avant que Dieu nous donne le signal de nous emparer d'un terrain nouveau, la vie est une aventure, notamment de nous lancer dans cette aventure de l'Église Passion, Dieu nous a fait passer par Gilgal, nous a libérés, guéris du passé, de ce qui avait peut-être pu nous enfermer, qui nous avait contraints, qui nous avait contrôlés. Et ça nous permet d'être touchés, d'être guéris pour être entièrement libres. Et c'est comme ça qu'on peut entrer dans le pays promis, entrer dans le nouveau. Tu ne peux pas entrer dans ce à quoi Dieu t'appelle sans être guéri du passé. Autrement, à la première ville fortifiée, au premier géant, c'est la déroute, c'est la défaite ou c'est l'abandon. Et quand ton cœur est guéri du passé, c'est là que tu as autorité, que tu as l'autorité pour vaincre, pour t'emparer des forteresses et vaincre les géants qui sont dans ce pays promis. D'ailleurs, c'est quoi qui vient? La première chose qui vient après Gilgal, c'est Jéricho. Et jamais le peuple n'aurait pu vaincre Jéricho sans être passé par Gilgal, sans avoir été guéri dans leur cœur, sans que Dieu enlève tout ce qu'il y avait encore comme blessure ou amertume ou pensée d'Égypte, tout ce qui est encore de la chair, sans guérison du passé, sans peut-être guérison du regard des autres ou de la peur ou de l'emprise encore de la chair. Jéricho aurait été un désastre. Et on a vu ensemble combien aussi tournent dans le désert sans jamais entrer dans leur pays promis. Mais j'aimerais dire aussi, à l'inverse, combien passent le Jourdain et vont dans leur pays promis sans passer par Gilgal. Combien se lancent dans le ministère sans être guéris du passé, sans être transformés dans leur identité, dans leur caractère. Et ça fait tellement de dégâts sur les autres. Et au bout du compte, à un moment donné, c'est la défaite assurée. Et le problème, c'est souvent pas l'onction, c'est pas le don spirituel, mais c'est la manière de faire. Et la manière de faire, c'est justement là que le cœur non guéri va se manifester. Mais ce que j'aimerais surtout dire, et pour moi c'est une révélation, c'est pour ça que qu'être guéri, délivré de toute amertume, de tout non-pardon et autres, c'est pas juste pour que ça fasse plus mal ou pour qu'on soit des meilleurs chrétiens, mais c'est ce qui débloque et libère pour entrer pleinement dans notre destinée, dans notre appel. C'est pas juste parce que c'est bien d'être guéri, c'est mieux, ça fera moins mal, mais ça te libère pour rentrer vraiment dans le pays promis. Si tu passes par Gilgal, tu peux t'emparer du pays qui vient après. Et souvent, c'est des sujets séparés. Souvent, on nous fait un message, par exemple, d'être libéré du passé, ou un autre message sur le fait d'être guéri dans les cœurs, ou un autre message de consécration, dans ce sens. Ou alors, à l'inverse, des messages qui vont dans une toute autre direction, de conquête, de foi, d'audace, de s'emparer du pays, d'évangéliser. C'est comme un peu deux thèmes opposés. Et puis tu pourrais, je ne sais pas, tu te dis, ben, ah, tiens, j'aimerais voir un message ah, ben, sur MLK aujourd'hui. Ah, c'est rentré dans son appel. Mais c'est, ah, c'est quoi? Ah, ben Momentum, c'est la guérison du cœur. Et puis, ah, la porte ouverte, c'est libérer du passé. Qu'est-ce que je préfère aujourd'hui? Écoutez. Puis ceux qui sont plutôt prompts à se laisser toucher à l'introspection, ben on va peut-être prendre plutôt un message qui touche nos cœurs. Et puis d'autres, peut-être ça les saoule, puis ils ont envie de foncer enfin du concret, rentrer dans les promesses, allez, on y va maintenant. Enfin, on a assez entendu de messages, il y a assez de gens qui se perdent, on fonce. Et pourtant, c'est un peu un tout. C'est un tout. Ce sont les sacrificateurs consacrés, les yeux fixés sur la présence de Dieu, qui ont traversé le Jourdain. Et ensuite, en étant circoncis, ça leur a permis vraiment d'être dans la victoire et de s'emparer du pays. Et c'est fou parce que cette pensée que je recevais du Seigneur, regarde la première chose qui se passe après le Jourdain, ben c'est Gilgal. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après Gilgal? Il se passe quoi? Ils vont fêter pour la première fois la Pâque dans le pays promis. Et c'est la préfiguration de l'agneau Jésus sacrifié. C'est Pâques qu'on va fêter le week-end prochain. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux où Jésus entre à Jérusalem. Et le week-end prochain, on célèbre, pas ici en tant qu'église, mais dans nos cœurs ou dans nos vies. Vraiment, c'est une façon de remercier Dieu pour ça. Mais on va fêter, ils ont vécu cette Pâque, la première chose qu'ils ont fait après avoir été guéris. Comme dit Colossiens 2, 11, et je trouve fort, vous avez été circoncis par la circoncision du Christ. Par l'œuvre de la croix. C'est ça la nouvelle circoncision. C'est pour ça que je n'ai pas pris des couteaux de pierre ce matin. C'est quelque chose de spirituel que Jésus a vécu pour nous, à notre place. Et c'est le signe de la victoire en Jésus qui a pris la honte, qui a pris la chair, le passé, puis qui nous donne la victoire et qui amène une vie de l'esprit, une vie de résurrection. C'est ça la puissance de la croix. Et ça, ça vient avant la conquête, ça vient avant Jéricho. Et dans Josué 5, 10, 12, il est dit « Les Israélites campèrent à Gilgal et ils fêtent la Pâque. Le jour suivant, ils mangent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de manne pour les Israélites. Cette année-là, ils mangèrent ce qui pousse dans le pays de Canaan. Après 40 ans, il y a enfin, ils peuvent de nouveau manger les productions du pays. Il y a de nouveau des épis grillés. Ils peuvent de nouveau avoir du café. Ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas bu de café. Non, je rigole, mais il y a des épis grillés. Il y a de nouveau les productions du pays. C'est ça, à partir de là, c'est plus de la manne, mais c'est la nourriture, ce qui était la nourriture du désert. Mais c'est le fruit du pays promis, ce fruit abondant qu'avaient vu Josué et Caleb. Et c'est ce que j'ai envie de prophétiser sur ta vie aussi. Alors que tu as quitté l'Égypte, qu'à un moment donné, tu as choisi de suivre Dieu, que tu as passé par les eaux du baptême, comme le peuple qui a passé la mer Rouge, mais qu'ensuite tu ne restes pas avec cette mentalité du passé, à tourner dans le désert avec la chair qui te colle à la peau, mais que tu te consacres, que tu sers comme les sacrificateurs, que tu mets le focus sur la présence de Dieu, que tu te mouilles, que tu traverses le Jourdain, que tu laisses Dieu inciser ton cœur, comme ces fruits du sycomore, figuier sycomore, comme le peuple à Gilgal. Dieu transforme, guérit, touche ton identité, une identité nouvelle du pays promis, par cette Pâque, par cette œuvre de la croix, qui prend, lui qui a tout pris à la croix et qui te donne cette identité de fils, de fille. Et là, tu vas commencer à manger les fruits du pays, les fruits de la promesse que tu as reçue. Dans le désert, la manne te maintient en vie, mais dans le pays promis, tu portes du fruit. Et c'est cette étape-là de Gilgal qui est importante. Et le revivaliste Moody a dit la chose suivante: le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme entièrement consacré à lui. Quand on est entièrement consacré à Dieu, comme ses sacrificateurs, on peut rentrer dans ce pays promis, mais ensuite on laisse Dieu toucher nos cœurs, inciser nos cœurs. Et là, on a cette victoire pour ce pays. Et là, on arrive à mon dernier point, le troisième: s'emparer du pays, vaincre les géants. Parce que la première chose qui s'est passée ensuite dans ce pays promis, comme j'ai dit avant, c'est Jéricho. Un obstacle, mais un sacré obstacle. Peut-être le plus gros, le plus grand du pays promis. Et là, parfois, on pense qu'on est proche de Dieu, on a laissé le Saint-Esprit travailler nos vies, on a fait le pas de lâcher prise, on a fait le pas de foi de mettre les pieds dans l'eau. On pense tout à coup, le tapis rouge va s'ouvrir, puis enfin, tout ce que Dieu avait promis va se dérouler, va enfin arriver. Les choses que Dieu m'avait promises, tac, ça va tomber du ciel, tac, tac, tac. Les promesses, les prophéties. Oui, le Jourdain s'est ouvert, mais ensuite, ils sont arrivés sur un terrain, un pays qu'il fallait encore s'emparer. Un pays dont les espions avaient vu le lait, le miel, les fruits abondants, hors normes, surnaturels. Ça fait partie du pays promis, du réveil, de l'abondance, le surnaturel, les fruits. Mais ce qu'on y trouve aussi, c'est des géants et des villes fortifiées. Et les espions avaient vu ça, mais c'est toujours là, maintenant. Et ce qui m'a frappé et que Dieu m'a mis à cœur, c'est qu'on ne tourne peut-être plus dans le désert, on a passé le Jourdain, et maintenant. Et là, je sentais que Dieu, alors qu'on a passé à ce Gilgal, que Dieu a touché notre cœur, qui désirait vraiment nous revêtir d'une foi. Pas juste la foi de croire en lui, ou dans le bonheur qu'il a pour chacun d'entre nous, mais une foi qui permet de prendre des forteresses et d'affronter ces géants qui sont là. Un esprit conquérant, une mentalité de prendre du terrain. Et c'est pareil dans nos vies. Pour entrer dans notre appel, dans notre pays promis, il y a aussi des géants, il y a aussi des forteresses. Des géants qui intimident dans le but de nous empêcher de conquérir, de rester dans notre, si on a déjà passé le Jourdain, dans notre petit Gilgal. Il y a 8 km entre Gilgal et Jéricho. Alors on peut rester dans notre petit pays promis. Alléluia, on est au pays promis. Mais il y a tout un terrain à prendre encore. Mais Dieu veut nous donner de vaincre des géants. Et ça peut être les géants, le géant de la peur. Jamais j'y arriverai. Ça ne va peut-être pas marcher. Ou bien le géant du sentiment d'illégitimité, d'imposteur. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne. Ou le géant du regard des autres. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? si je commence à faire ça ou à prier, à me lever dans la destinée que Dieu a pour moi. Ou le géant de l'ampleur de l'appel. Mais c'est trop grand pour moi. Dieu ne t'amène pas dans un pays vide, il t'amène dans un pays à conquérir. Il ne t'amène pas dans un pays vide, mais dans un pays à conquérir. Et parfois, ce ne sont pas juste des géants, mais ça peut carrément être des villes fortifiées, des forteresses qui sont peut-être déjà construites, même presque en nous. C'est-à-dire, c'est peut-être des situations bloquées ou des portes fermées. T'avances, mais ça ne s'ouvre jamais. Ou des réalités professionnelles, ou un environnement hostile, ou des contextes compliqués, ou des limitations financières, que sais-je. Mais quand Dieu te fait entrer dans la promesse, il ne va pas t'épargner les murs, mais il t'apprend à les voir tomber. Il t'apprend à les voir tomber. Et c'est pour ça que passer par Gilgal, être guéri du passé, transformé dans son cœur, dans son caractère, c'est indispensable, parce que ça va te permettre de prendre le prochain Jéricho. Précisément pour le peuple, la première chose à vaincre devant Jéricho, ça devait être l'intimidation, la peur, être impressionné, et surtout l'incrédulité. C'était juste pas possible, juste pas faisable, quoi. Ils auraient pu rester juste dans leur petit Gilgal, quoi, juste là, on va pas aller plus loin. Humainement, c'est vrai, Jéricho, c'était une ville qui était faite pour être imprenable. Déjà, il y avait déjà comme des murailles naturelles de rochers, et par-dessus, ils ont encore fait une muraille. Les commentateurs pensent que c'était environ 10 à 12 mètres de haut, mais aussi 2 à 3 mètres de large. D'épais, imprenable. Et là, tu sors de 40 ans dans le désert avec les mêmes chaussures, même s'il y avait eu le miracle qu'ils étaient inusables. Mais tu es un peuple, tu n'es pas une armée, pas des stratèges de guerre avec des chars, des catapultes puis des années d'entraînement. Non, c'est juste un peuple qui marche par la foi. Et ce qui leur a permis de prendre Jéricho, c'est de vaincre la peur. Et quand on a peur, on n'est plus soi-même, on n'entend même plus forcément ce que Dieu veut nous dire. Ils ont vaincu la peur. Et ce qui leur a permis de prendre aussi la ville, de vaincre la peur, c'est aussi ce pas d'obéir. Et je dis volontairement ce mot « obéir », même si ça grince des fois un peu dans nos oreilles, parce qu'il y a le fait de suivre quelque chose qui n'est pas forcément logique, qui est illogique ou qu'on n'aime pas trop. Et Dieu leur dit de faire la louange en tournant autour de la ville pendant 7 jours de suite. Et ça, ça ne passe pas trop, il n'y a rien de logique là-dedans. Tu dis « ouais, moi j'aimerais comprendre avant de suivre ». J'ai plutôt quelque chose d'autre à cœur. Mais si tu n'es pas passé par Gilgal, c'est trop dur d'obéir. Parce que peut-être que tu as vécu des abus éducationnels dans ton enfance ou des abus spirituels en tant que chrétien. Tu as donné, quoi, on ne va pas t'y reprendre. À Gilgal, Dieu vient guérir les cœurs pour que tu ne restes pas coincé toute ta vie devant la muraille de la première ville. Ils ont pu prendre Jéricho parce qu'ils y ont cru pleinement. Ils ont vraiment cru à ça. Ils ont dû obéir, mais ils n'ont pas juste obéi la mort dans l'âme. Ils y ont cru. Et c'est Jean-Claude Chablot, je crois que j'avais raconté une fois cette histoire. Il parlait d'un petit garçon, je crois que c'est un enseignant à l'école. Ils étaient tous debout. Et puis il dit, mais maintenant, il faut vous asseoir. Et puis ils n'obéissaient pas tous. Puis lui, il restait toujours debout. Puis à un moment, il dit, maintenant, tu t'asseyes. Et puis au final, il s'asseye. Il dit, ouais, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout.
Qu'il a dit.
Mais là, le peuple, ils n'ont pas juste obéi comme ça. La mort dans l'âme, ok, bon, on va tourner autour de la ville, on verra bien ce qui se passe. Ils y ont cru. Ils ont cru que quelque chose allait se faire. On le voit dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11, 30. Il est mis, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Ils ont eu la foi que ça allait se passer. Ils y ont vraiment cru. Enfin, ils ont aussi mis le focus sur Dieu plutôt que sur le problème. Parce que si vous tournez autour de la ville, si la ville c'est ici, et puis que vous tournez autour, pour tourner, vous devez vous regarder ailleurs. Et vous allez commencer à tourner autour. Déjà, ils vont détourner le regard de l'immense problème et ils vont regarder ailleurs. Et ils vont regarder à quoi ? Josué 6,6 nous dit, Josué appela les sacrificateurs et leur dit, porter l'arche de l'Alliance. Et on arrive de nouveau à ça, devant l'immensité du défi imprenable. Ils ont été appelés à se détourner de ce problème et à regarder devant, et devant c'était l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu. Ils ont été dans la louange, dans l'adoration, plutôt que de mettre le focus sur le problème. Et souvent dans nos soirées percées, à chaque fois on y revient, mais on commence par louer Dieu, à mettre le focus sur lui avant tout, plutôt que de mitrailler les sujets de prière ou les défis. Parce que c'est un positionnement, c'est une posture, plutôt que d'être devant le défi et les problèmes, devant les géants ou les forteresses, on se détourne de ça et on regarde d'abord à l'arche, on regarde d'abord à la présence de Dieu et on commence à louer et adorer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et là, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû persévérer dans la foi parce qu'ils n'ont pas tourné qu'une fois. Ce n'était pas instantané, comme des fois un acte prophétique et ça se passe. Ils ont tourné un jour, une fois, aucun effet. Deux fois, aucun effet. Six fois de suite, six jours de suite, sans rien. Tu as le temps de mettre en doute, hein, tu as le temps de te dire que ça ne va peut-être pas marcher. Mais il y a la foi, il y a l'obéissance de rester dans le plan et d'insister. Il y a la persévérance de tourner six jours et même sept fois le septième jour. Et je suis convaincu que ce n'est pas pour rien. Et c'est ce qui nous permet de vaincre vraiment nos géants, nos défis, de mettre le focus sur Dieu, d'obéir et aussi de persévérer, de tenir bon. Et c'est ça, croire. Ce n'est pas juste le premier pas. Comme quand ils ont passé le Jourdain, ils ont fait un pas. Ça s'est ouvert, alléluia. Et puis après, il y a la suite là. Il y a eu ce pas de foi, mais ils ont dû tenir dans la foi longtemps, plusieurs jours, et ça ne marchait pas tout de suite. Et je suis convaincu que ce qui fait la différence, c'est de tenir bon dans nos choix et de continuer jusqu'à que la forteresse, elle descende. Il y a une persévérance. Ils ont une persévérance dans la foi, dans l'adoration, jusqu'à ce que l'ennemi lâche. Et la tentation, des fois, c'est de vouloir faire par soi-même, d'attaquer le problème. On a bientôt fini de louer là, on veut du concret maintenant. Mais la tentation, c'est soit d'attaquer trop vite par soi-même ou alors d'abandonner, de lâcher, de jamais confronter. Et du coup, on n'entre jamais dans le pays. Ou alors on bâche. Il n'y a pas de résultat, ça ne marche pas. Par exemple, j'arrête de prier pour les malades. Mais eux, ils n'ont pas arrêté de tourner après un jour où la muraille n'est pas tombée. Ils ont poursuivi. Et des fois, il faut poursuivre, il faut continuer. C'est une démarche de foi qui n'est pas juste instantanée, mais il y a une démarche de persévérance dans la foi. L'ennemi réussit soit de nous retenir ou de nous pousser. Et après Jéricho, c'était la ville d'Aï, et ça avait tellement bien marché avec Jéricho. Là, ils se sont dit, là, c'est bon, on va y aller. Pourquoi toujours attendre une conviction ou ce que le boss Josué va dire? Pourquoi reprendre du temps à louer? On veut du concret, on a eu assez de messages, maintenant on veut foncer, on va y aller. La ville n'est pas si grande, le peuple s'est... Mais là, le peuple s'est ramassé. Ils ont été laminés en attaquant une ville d'Aï qui était beaucoup plus petite. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas parlé. Pour Jéricho, ils avaient obéi. Pas juste de prendre la ville, mais ils ont obéi sur le comment faire, qui était particulier quand même, de louer Dieu en tournant autour avec les trompettes et la louange. Là, pour Haï, ils se sont repris le mur et la défaite parce qu'ils ont pensé qu'ils en savaient assez et puis ils ont fait la même chose. Et je crois que c'est un des plus grands pièges, c'est souvent de refaire la même chose. On a prié comme ça, puis ça a marché. J'ai déjà prié comme ça pour quelqu'un qui a été délivré, puis ouais, j'ai coupé ceci, cela, ça a marché. Ça. Puis on a fait ceci, cela, puis on a vite l'habitude. Et si le peuple avait tourné sept fois autour de la ville d'Haï, ça n'aurait pas marché non plus. Et parfois, l'expérience peut être un encouragement, et ça devrait. Si Dieu nous a donné Jéricho, il va nous donner le reste du pays. Oui, ça c'est positif. Mais l'expérience ne doit jamais prendre le dessus sur l'intimité et sur ce que Dieu dit. Sinon, l'expérience, elle va nous enfermer. Ah, j'avais pris tel champ, puis ça avait changé tout quand je me suis approché de Dieu. Puis après, le lendemain, tout à coup, on est de nouveau mal. On va remettre le même champ. Non, peut-être que Dieu nous a parlé une fois comme ça, ou une fois par ce verset. Et l'expérience, elle nourrit ta foi. L'expérience nourrit ta foi, ou elle t'équipe. Mais la victoire, elle ne vient pas de là. Elle vient de la voix de Dieu. Elle vient de l'intimité. Elle vient de la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est là que tu apprends à agir juste et au bon moment. Alors que j'ai bientôt terminé, mais l'autre jour, j'ai été frappé par un verset dans Luc 10, où Jésus, et ça va vraiment dans la suite de ça aussi, Jésus envoie les 70 disciples, ou 72, suivant comment c'est écrit, pour évangéliser. Et c'est une façon de s'emparer du pays promis. Il les envoie prendre le pays, prendre le terrain, quelque part. Et là, il les désigne, et il leur dit dans Luc 10, « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et là, le verset 3, « Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est fou que Jésus dise ça. comme des agneaux au milieu des loups. Moi, je m'attendrais à ce que Jésus, s'il m'envoie, il me dise « Ah, ben, je t'envoie, je t'équipe, tu vas tous, il n'y a rien qui va te résister. » Non, il me dit « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » C'est-à-dire, en continuant de dépendre du Saint-Esprit, de la présence, on y arrive toujours de suivre l'arche, de suivre ce que Dieu dit, et d'y aller par sa force et pas la nôtre. Un petit agneau, il va dépendre de la force surnaturelle pour vaincre les loups. Et Jésus parlait d'évangéliser dans ce cas-là, mais ça ne va pas être par les arguments, par les explications. Aujourd'hui encore, ça ne marche pas ça. Mais avec notre humilité, en manifestant la puissance de Dieu pour parler et dire les choses au bon moment. C'est-à-dire en étant dépendant de lui. Tu n'as pas besoin d'être un loup pour prendre du terrain. Tu n'as pas besoin d'être un géant pour t'emparer du pays promis. Tu n'as pas besoin d'être comme le monde pour toucher le monde. Mais dépendant de lui et proche de sa présence. Et d'ailleurs, on voit au verset 17 que ces 70, ils reviennent tout joyeux en disant que même les démons leur sont soumis. Ça a marché. Ces agneaux parmi les loups ont vaincu les géants, la peur, l'incrédulité. Et conquérants, mais pas juste comme des super-héros qui cassent tout sur leur passage, mais comme des agneaux qui doivent être complètement dépendants de la présence. Comme le peuple qui marchait en regardant d'abord à l'arche, d'abord à la présence de Dieu devant Jéricho. Et pour conclure, et le groupe, vous pouvez revenir au niveau de la louange, vous pouvez revenir ici, la consécration, la guérison du passé de l'Égypte, les marques de la mentalité d'Égypte. Ce n'est pas une option ou un chapitre en soi, mais c'est indispensable pour la conquête du pays. C'est même ça qui va débloquer le prochain niveau, celui de la foi, celui de l'audace, celui de la victoire, celui de voir des fruits dans ce pays promis. Et la victoire de Jéricho n'aurait pas été possible sans Gilgal. Comme le figuier, il ne porte pas de bons fruits sans être incisé, comme on l'a vu. La circoncision des cœurs n'est pas quelque chose qu'on peut remettre à plus tard. C'est ce chemin étroit qui mène à la vie, comme dit Matthieu 7, 14. De même, on ne peut pas désirer entrer pleinement dans son pays promis, dans les promesses qu'on a reçues, et qu'enfin les prophéties qu'on a reçues s'accomplissent sans passer par Gilgal. Gilgal, c'est là que notre cœur est touché, incisé. C'est là qu'on laisse Dieu transformer nos cœurs, faire une opération cardiaque, ôter la chair, ôter l'amertume. C'est là qu'il vient guérir nos cœurs. Et passer par la case Gilgal, la circoncision du cœur, la guérison, la transformation du cœur, c'est pas juste que Dieu nous guérit et nous libère pour nous toucher par rapport à notre passé, mais ça nous donne un futur. Ça te donne un futur, ça te donne le pays, ça te permet de t'emparer de ce pays, ça te permet de rentrer dans les promesses que Dieu a pour toi, ça te permet d'activer, comme disait Jérémie Potin, cette prophétie qui ne va pas juste rester une histoire sans fin, mais qui va commencer à devenir vivante et à se réaliser. Ça nous donne une posture pour entrer dans notre destinée. Que les promesses et prophéties ne commencent pas à s'accumuler sans être réalisées. Et Dieu ne t'appelle pas à devenir plus fort que les loups, mais il t'appelle à avancer avec sa présence au milieu des géants, dans ce nouveau pays. Et la Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont vécu ça avec succès, comme David, Pierre, Joseph, Moïse, Paul, Zachée. Ils ont passé par Gilgal. Dieu a touché, transformé leur cœur. Ils ont laissé Dieu opérer leur cœur, ils ont été transformés. Mais d'autres avaient aussi des grands appels, avaient une destinée puissante, comme Saül, une onction royale, un appel de leadership incroyable. Il était grand, il y a plein de choses qu'ils décrivent, mais il n'a pas passé par Gilgal. Samson, qui avait un appel puissant de libérateur du peuple, aussi, il a loupé cette étape de Gilgal. Ou Judas Iscariote, qui a passé tellement de temps dans la présence de Jésus, pendant 3 ans entiers, il n'a pas laissé son cœur être transformé. Quel appel apostolique a été gâché pour lui. Et eux, ils ont foncé dans le pays promis sans passer par Gilgal. Et je crois que ce matin, Dieu aimerait tellement que chacun d'entre nous, on rentre dans notre pays promis, dans notre destinée, dans ce pourquoi Dieu t'a créé, que tu puisses rentrer, saisir ces choses, vivre ces choses. Et après ce Jourdain, il y a le fait de laisser Dieu toucher nos cœurs. Et j'aimerais qu'on puisse prier par rapport à ça maintenant. J'aimerais vraiment simplement prier. Peut-être qu'on peut se lever ensemble. Et le revivaliste anglais John Wesley a dit la chose suivante. « Donnez-moi 100 hommes qui ne craignent rien sauf le péché et ne désirant rien d'autre sauf Dieu, et je changerai le monde. » Donnez-moi 100 personnes qui ne craignent rien sauf le péché, qui ne désirent rien sauf Dieu, et je changerai le monde. Et Dieu veut transformer nos cœurs parce qu'il cherche des hommes et des femmes qui ne craignent rien d'autre, qui ne craignent pas les géants, qui ne craignent pas les forteresses, mais qui ont cette sainte crainte de Dieu et qui laissent Dieu opérer, inciser leur cœur, toucher leur cœur. C'est ça qui va amener un réveil dans notre région, dans nos vies, dans notre Église. Et Dieu désire vraiment changer cette nation, amener un réveil. Et c'est pour ça qu'il vient ce matin titiller nos cœurs. Moi, je voulais tout de suite prêcher la conquête du pays promis, enfin après le Jourdain. Dieu m'a vraiment donné cette pensée. Regarde ce qui s'est passé juste après le Jourdain. Et c'est Gilgal où Dieu vient toucher les cœurs. Et je te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses venir guérir tout ce qu'il y a à guérir, inciser tout ce qu'il y a à inciser, ôter toute part de chair encore qu'il y aurait dans nos cœurs, toute casserole peut-être du passé ou toutes des choses qui nous empêchent d'avoir une audace et une victoire face aux forteresses et aux géants, tout ce qui nous empêche de prendre le pays. Je te prie de venir guérir ça dans les cœurs ce matin, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens faire cette œuvre, Seigneur, alors qu'on vient là devant toi pour se consacrer. Seigneur, moi, je veux t'offrir mon cœur. Je veux me consacrer à toi. Je ne veux pas juste être un fan, un followers, mais je veux être un sacrificateur. Il y a cet appel pour tout le monde d'être ces sacrificateurs, ces personnes qui te suivent entièrement avec tous les domaines de leur vie. C'est ça que je désire pour ma vie, Seigneur. Touche les cœurs maintenant, Seigneur. Embrase nos cœurs, Seigneur. Des cœurs entiers pour toi. C'est ça que disait John Wesley. S'il y a 100 personnes comme ça, ça va changer le pays. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de toucher nos cœurs pour changer cette région. Parce qu'on est entiers pour toi. Alléluia. Et on va prendre ce chant ensemble qui puisse être une réponse. Ça puisse être ta prière. Chante-le vraiment si tu réponds aussi à ce message. Je prierai encore après ce chant. Je crois que Dieu veut nous donner aussi un esprit de foi et d'audace pour prendre le pays. Et chantons ensemble ce chant. Et merci Seigneur pour cet esprit de foi et l'audace que tu nous donnes, de pouvoir non pas être impressionné, intimidé par les géants, par ces forteresses et ces villes, ces impossibilités, ces obstacles. Et Seigneur, tu nous libères complètement, Seigneur, tu guéris nos cœurs, mais tu nous donnes aussi une foi, une audace de regarder à toi, de regarder à ta grandeur, à ce merveilleux nom que nous avons chanté, et fort de ce regard sur toi, sans filtre, sans préoccupation. Tu viens mettre en nous une foi nouvelle, un esprit de conquérant pour conquérir ce pays, pour communiquer plus loin ta vie, pour être ses témoins, pour être ses petits agneaux parmi ces loups, parmi ce monde hostile, mais fort de ta présence, dépendant de toi, mais armé de cette onction qui déverrouille le surnaturel là où il n'y a aucune possibilité dans le naturel. Alléluia. Amen.